une voix qui rassemble, un appel à accepter son corps tel qu'il est et le célébrer. Bienvenue dans Shapes. Je suis Violaine Kahl et je donne la parole à des femmes, des hommes, dans le reflet de mon miroir. Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que ton corps t'appartient ? Si ton corps pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait ? Et lui, qu'est-ce qu'il voit ? Pourquoi la femme et l'homme ont-ils tant de mal à communiquer autour de ce corps qui fascine, dérange, gêne ? Un corps que l'on maltraite sans relâche.
It doesn't matter what country they're in or what religion they claim, they all want to control women.
Et comment le regard de l'autre peut nous détruire ou nous guérir ? Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle. Que devient un corps lorsqu'on lui en enlève une partie, une fonction ? Comment réagit l'esprit pour combler la partie vide ? Est-ce que le corps se transforme ? Est-ce que l'humain change ? Est-ce que sa vision s'ouvre à quelque chose de nouveau, sans limitation provoquée par l'image étriquée que l'on a de ce corps ? Aujourd'hui, je rencontre la comédienne Sabrina Nani. Lorsqu'elle se retrouve en pleine écriture de son premier spectacle Ex Utero, Sabrina apprend à l'âge de 40 ans qu'elle est atteinte d'un cancer de l'utérus. Pour la sauver, il faut tout lui enlever. À cette annonce, son rêve d'avoir un enfant se brise à tout jamais. Sa place de femme au sein de la société est remise en cause puisqu'elle ne peut pas donner naissance. Elle entame alors un vrai chemin de résilience, l'amenant à déconstruire ce schéma inscrit dans nos veines depuis toujours pour en écrire un nouveau. On l'écoute. Bonjour Sabrina.
Bonjour Violaine.
Merci d'être venue jusqu'à moi aujourd'hui.
Merci de m'avoir demandé de te rejoindre.
On va démarrer tout de suite et je vais te faire venir devant le miroir.
Allons-y.
Que symbolise l'objet du miroir pour toi, Sabrina ?
Alors le miroir, pour moi, c'est un outil. C'est un outil pour vérifier. C'est un outil de vérification, un miroir. C'est pas du tout un objet dans lequel je m'admire, je me regarde, je vérifie dans un miroir.
Comment tu te sens ?
Non, en vrai, là, je suis dans le miroir, mais je ne me regarde pas. comment je me sens ? Je regarde toujours le bas. Dans un grand miroir où je me vois en entier, je regarde très, 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 très rarement mon visage. Je regarde toujours plutôt mon corps, et notamment le bas de mon corps.
Quel endroit particulièrement ?
Mes jambes. Et là, du coup, je...
Tu peux nous décrire la position de tes jambes, par exemple ?
J'ai pas les jambes droites. Je les plie un peu... Parce que j'ai un pantalon large pour cacher mes jambes. Et du coup, je les plie quand même juste pour vérifier. Vérifier l'état de mes jambes, en fait.
L'état de tes jambes ?
Mmh. Enfin, l'état. La taille de mes cuisses. Voilà. Et je me rends compte, en fait, que ce pantalon que j'ai mis ne va pas si bien que ça. Parce qu'il est censé cacher la zone. Parce qu'avec une copine, quand on était ado, on appelait la zone X. Plus communément appelée la culotte de cheval. J'ai mis un pantalon qui est censé la cacher. Puis en fait, ça ne marche pas des masses.
Pourquoi les cuisses viennent en premier ? Il y a une histoire particulière ? Pourquoi ton regard se pose en premier à cet endroit ?
Parce que, autant que je m'en souvienne, j'ai toujours eu des grosses cuisses, même quand j'étais petite. Donc du coup, je suis complètement obnubilée par mes cuisses. Vraiment. Voilà.
Quand tu dis grosse cuisse, tu as une référence ?
Non. Mais elles sont plus grosses que le reste de mon corps, en fait. Enfin, c'est en référence au reste. Parce que pour le coup, en haut, je suis plutôt... je suis plutôt mince, mais limite, on voit un peu mes clavicules.
C'est quelque chose qui est venu de toi ou c'est quelque chose qu'on t'a énoncé ?
Le fait que je sente que j'ai des grosses cuisses ?
Ouais.
Ouais, c'est moi.
Ok.
Enfin, pour moi, c'est pas c'est un fait. C'est un fait. Personne me l'a dit, mais je le vois. Donc, mais bon, ça va. Ça reste ma préoccupation principale. Bon.
Est-ce que ça a bougé à travers les années ? Est-ce que tu vis ton corps, tes cuisses, par exemple, de manière différente entre l'adolescence et aujourd'hui ?
J'ai maigri. Parce qu'on a, pendant mon adolescence, j'ai toujours été très grande en fait par rapport aux autres élèves de ma classe, même pendant l'adolescence. Enfin, j'ai très très vite atteint le 1m70. Je crois que je faisais déjà 1m65, 67 quand j'étais en primaire. Et j'étais là pour le coup très forte en fait. Enfin, oui, j'étais. Pas dire que j'étais grosse, pas du tout dans l'obésité, mais disons qu'en plus j'étais grande. Voilà, sur la photo de classe, j'étais toujours, on pouvait me confondre avec la maîtresse, quoi.
Il a quelle importance ton corps pour toi ?
Bah, c'est celui qui me permet de me déplacer. C'est celui qui me permet d'être vu par les autres, il est très important parce qu'il te rend social, ton corps. Donc il est important, c'est important. C'est important, c'est le regard que les autres portent sur toi.
Tu peux me dire ce que tu fais avec ton corps depuis tout à l'heure, depuis que tu parles et que tu es devant ce miroir ?
Non. Non, pas parce que je ne veux pas le dire, parce que je ne sais pas en fait. Vraiment, sincèrement, qu'est-ce que je fais ? J'arrête pas de bouger, c'est ça ? Ouais, j'arrête pas de bouger. Ouais. Ouais.
C'est comme si ton corps est vraiment la prolongation de tes mots.
Mmh. Oui, et pourtant, c'est marrant. C'est marrant parce que j'aurais toujours eu tendance à dire que j'étais pas en phase avec mon corps, en fait. Et puis, là, tu es en train de me prouver complètement le contraire. Je suis très perturbée.
En tout cas, il réagit bien. Hein. Je le sens bien réagir.
Ah, il n'est pas mort, hein, ça, c'est sûr.
Non.
Non, mais j'ai toujours eu une distance très, très forte avec mon corps, en fait. Encore une fois, quand je me regarde dans la glace, Je le regarde lui, je le regarde lui, je ne me regarde pas moi. Mm. C'est comme s'il me regardait moi, c'est me regarder moi, mon visage, et regarder mon corps, c'est regarder vers le bas. Mais dans le miroir, c'est je regarde mon corps, je ne me regarde pas.
Comme si c'était toujours au-dessus de ton corps.
Ouais. Ouais. Et pourtant, j'ai du mal manifestement à avoir un regard objectif. Même si je
est-ce que tu as la sensation que ton corps, il t'appartient intégralement ? Que tu en es complètement maître ?
Ah, j'en suis maître ? Alors, pas du tout. J'ai même l'impression qu'il a son existence propre. Il m'appartient, oui, dans le sens où c'est comme si à la naissance, en fait, on t'avait dit tu vas faire équipe avec ce corps, donc voilà, c'est mon c'est mon coéquipier, donc il m'appartient, c'est le mien, il n'a personne d'autre forcément, mais j'en fais pas ce que je veux. Il a sa propre vie.
T'as déjà été en colère après lui ?
Oh oui, oh, très régulièrement. On n'est pas du tout copains. Hein. Ah, avec mon corps, on n'est pas copains. On n'est pas copains.
C'est lui qui n'est pas copain avec toi ou c'est toi qui n'est pas copine avec lui ?
Bah, ça dépend des moments. non, mais globalement, c'est plutôt moi qui ne suis pas copine avec lui.
Pourquoi ?
Parce que je le trouve jamais assez bien, en fait. Je trouve qu'il est... comme je disais tout à l'heure, j'aime pas mes jambes. Je le regarde toujours un peu comme ça, sous toutes les coutures. Mais vraiment...
Est-ce qu'il t'a trahi ?
Alors oui. Ah oui, oui. Puis il s'est bien fait plaisir. Il m'a trahi quand j'ai eu mon cancer. Parce que là, tu te dis... Enfin, clairement, tu te dis, mais pourquoi ? Enfin, dans le sens, enfin, par rapport à ton rapport au corps... voilà, si je veux, je sais pas, être plus ferme, je fais du sport. Si je veux faire ceci sur mon corps, si je veux, je sais pas, grossir, je mange. Mais avoir un cancer, on fait rien pour en avoir ou ne pas en avoir. C'est toujours ce que je dis. C'est que pour moi, avoir un cancer, ça n'a pas de sens. Et même donc, du coup, mon corps m'a fait ce joli cadeau. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'encore une fois, dans ma famille, j'ai eu la chance de jamais être touchée ni de près ni de loin. Et donc, je ne connaissais pas cette maladie et je ne peux même pas me dire que c'est héréditaire par rapport à d'autres corps de ma famille. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, ça m'est arrivé. Et là, je me dis, mon corps quand même... C'est pas cool, quoi. Je t'avais ok, on n'est pas potes, mais enfin là, tu vas fort.
Est-ce qu'après avoir vécu ce cancer, est-ce qu'il y a une autre peur qui reste encore, qui peut être liée encore à ton corps aujourd'hui ?
Non. Non, parce que en même temps... Je pense souvent qu'il faudrait vraiment que je me réconcilie avec mon corps et j'essaye. Mais pendant toute la période de ma maladie, c'est comme si je m'étais complètement désolidarisée de mon corps. Mais alors vraiment complètement. Enfin, c'était un objet de travail pour les médecins. C'était leur job de me sauver la vie. C'était, et moi, c'était dans ma tête que je tenais le coup. Et du coup, le fait d'être complètement désolidarisé de ce corps, d'ailleurs je dis ce corps plutôt que de dire mon corps, le fait d'être complètement désolidarisé, c'est comme si, bon, bah, enfin, vas-y, allez, enfin, j'ai plus peur, enfin, tu m'as fait ça, maintenant, bon, quoi ? Qu'est-ce que tu veux me faire de pire.
J'aimerais que tu fermes les yeux. Mmh. Qu'est-ce que tu ressens ?
Une perte d'équilibre, déjà. Qu'est-ce que je ressens ? Je sais pas quoi. Qu'est-ce que je ressens ? Pas vraiment cette perte d'équilibre. C'est chaud.
Ouvre-les quand tu veux et dis-moi ce que tu vois. Première chose que tu regardes.
Et bien là, c'était mon ventre.
Si ton ventre pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait?
Serre-moi fort. Fais moins gros câlin.
On le resterait à soir à table. Ça va?
Ça va. Une véritable épreuve. Merci du cadeau.
On va revenir sur ton parcours. Maintenant que t'es là, bien présente dans ton corps. Sans enfant à 40 ans, on t'a annoncé que tu pourrais plus jamais en avoir. J'ai cru comprendre que c'était un vrai désir pour toi.
Ouais.
Comment tu le vis à l'annonce?
J'ai découvert mon corps à ce moment-là, en vrai. Et donc, on m'a dit, bon, ben voilà, on va vous enlever ça, ça et ça, et puis on va vous remonter vos ovaires.
Ok. Dis,
ah, ok. Mais pourquoi et où?
Donc en fait, en gros, quel est l'intérêt de, si on t'enlève tout, si on t'enlève le col de l'utérus et le col de l'utérus, quel est l'intérêt de garder les ovaires?
Pour que je ne sois pas ménopausée.
Ok.
Ça, c'était la première, parce que je pense que pour congeler mes ovocytes, c'était compliqué.
Ok.
Mais c'était au moins pour que je ne sois pas ménopausée. Mais potentiellement pour congeler mes ovocytes, mais je sais qu'à l'époque c'était déjà compliqué parce qu'avant qu'il m'arrive tout ça, comme je m'inquiétais de savoir si je pourrais avoir des enfants, étant donné que j'avais pas de partenaire pour en faire, je me suis dit bon, ouais, peut-être que je vais mettre tout ça de côté, puis on verra quand ce sera le moment. Et je savais déjà que c'était pas gagné, déjà, que c'était pas impossible du tout, mais que c'était pas gagné. Donc à ce stade de la compétition, je pense que c'était pas le c'était plus le propos. Là, l'idée c'était de que je ne sois pas en ménopause.
Ok.
Et donc, quand on m'a dit, voilà, vous avez un cancer du col de l'utérus, il va falloir tout enlever, c'est ce qu'on m'a dit. La première chose que j'ai entendue, c'est tout enlever. Donc, j'ai pris conscience que j'allais perdre mon utérus, quoi, la poche du kangourou.
Ouais, le berceau de l'enfant.
Le berceau. Et j'ai entendu après cancer. Mais je pense que j'ai réalisé vraiment ce qui m'était arrivé quand ça m'a fait mal, quand je me suis réveillée de l'opération, là j'ai réalisé ce qui s'était passé. Vraiment.
Ça t'a fait mal, c'est-à-dire ? Physiquement, émotionnellement ?
Physiquement, émotionnellement, j'ai eu mal avant.
Ouais.
Sans vraiment, encore une fois, me rendre compte de ce qui se passait. Enfin, c'est tellement soudain et c'est tellement énorme. Du jour au lendemain, on vous annonce que vous avez un cancer et que vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Donc, tout ça dans une seule et même phrase, c'est hyper violent. Donc j'ai vraiment mis du temps à réaliser tout ça, mais j'ai d'abord compris émotionnellement que c'était fini. À la fois la possibilité d'avoir un enfant et à la fois cette horloge biologique en fait qui s'est arrêtée du jour au lendemain pour moi vraiment. Parce qu'on a quand même cette pression qu'on se met et qu'on vous met en vous posant la question, alors, t'as pas d'enfant, comment ça se fait? Donc, ça, on a la pression sociale et la pression qu'on se met. Bon, d'un seul coup, il y a tout ça qui partait avec aussi.
Est-ce que c'est un soulagement aussi, quelque part?
C'est ça, en fait. C'est à la fois une terrible douleur et en même temps, cette espèce d'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, qui du coup... Il n'y en a plus. Maintenant, maintenant, quand on me demandera pourquoi j'ai pas d'enfant, je saurais quoi répondre, alors qu'avant, je ne savais pas. Non, mais c'est vrai, c'est C'est ce que je dis d'ailleurs dans mon spectacle, parce que c'est vrai, c'est que je pense qu'il faut arrêter de demander aux femmes qui n'ont pas d'enfants pourquoi elles n'en ont pas. Parce que chaque femme a sa propre histoire, elles ont toute une bonne raison de ne pas en avoir. Mais je pense que par moment, il faudrait peut-être plutôt les laisser le dire elles-mêmes, en fait, plutôt qu'on pose la question systématiquement. Mais donc, du coup, maintenant, bon, bah voilà. Mais enfin, encore aujourd'hui, si on me posait la question de savoir pourquoi j'ai pas d'enfant, je pense qu'ils seraient pas déçus de la réponse. Voilà.
Est-ce que tu t'es sentie bien accompagnée en termes médical pendant toute la chirurgie ou avant ou la préparation? Est-ce qu'on a pris soin de t'expliquer comment ça allait se passer, qu'est-ce qui allait se passer au niveau des ressentis de ton corps, des sensations? Parce que tu vois, moi j'ai lu justement en regardant un peu tout ça, parce que je me suis posé la question de moi-même si un jour, voilà. En fait, j'ai même découvert que certaines femmes pouvaient avoir un orgasme que quand tu touches en fait l'utérus.
Ah ouais.
Ouais.
Je passe.
Parce qu'il y a une zone. Parce qu'il y a une zone. En fait, apparemment, il y a une zone érogène juste derrière.
Dingue.
Et que dans ce genre d'opération, en fait, bien souvent. Quand il y a un peu d'éveil en termes chirurgicaux des médecins qui vont procéder à l'opération, on demande en fait à la personne si elle connaît cette zone-là, si elle est importante pour elle et que dans l'opération, il y a possibilité de tout enlever et de garder juste cet endroit pour garder ce plaisir-là en fait. Donc ça m'a vachement intriguée de lire ça. Et c'est pour ça que je me demandais vraiment jusqu'à quel point, toi, on t'a parlé de ton corps, vraiment, avant cette opération.
Alors, pas du tout. Du tout. Mais cette histoire d'orgasme avec l'utérus, là, je suis très, très... parce qu'on ne m'a pas posé la question de savoir si je voulais garder cette partie. Non, on vous explique schématiquement, du coup, ce qu'on va vous faire. Sachant que moi, je me posais quand même la question, enfin, c'est très... Parce que c'est vrai que chez les femmes, tout est à l'intérieur. Donc, vraiment, quand on voit le dessin de l'appareil génital féminin, on voit cette espèce de V avec des cornes. Et il m'a dit...
Bah, j'aime beaucoup les cornes.
Non, mais moi, ça me fait penser à un cerf.
Ouais.
Et donc à partir du moment où on vous dit que le V en question c'est l'utérus, que les cornes c'est les ovaires, alors déjà je dis mais ok, donc si on enlève mon utérus, en fait je fais quoi? Je vais avoir une espèce de béance. Et puis du coup les ovaires, si on me les garde, sachant qu'elles sont elles vont être accrochées à quoi? Puisque je n'ai plus mon utérus. Enfin, vraiment, c'est et puis, du coup, qu'est-ce qui va se mettre à la place? Parce que, on me dit, oui, vous savez, le corps, il est bien fait. Après, je suis d'accord, le corps, il est bien fait. Enfin, c'est vrai que c'est une machine extraordinaire, pour le coup. Maintenant, j'aimerais bien savoir, étant donné que je ne peux pas le voir, qu'est-ce qui va se passer. Et bon, il m'a refait des petits schémas et tout ça, et j'en ai pas su beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que... avec le temps, et puis après je me suis plus vraiment posé la question en fait, vraiment, c'était avant l'opération, je me suis fait des millions de films en fait, sur dans quel état j'allais ressortir, est-ce que...
T'as ressenti le vide physiquement? Ou pas?
Je l'ai imaginé, physiquement non, vraiment, enfin c'est une douleur, c'est une douleur. C'est juste la douleur vraiment physique. Mais on ne ressent pas physiquement. Mais je l'ai imaginé. C'est la première chose que je me suis dite en me réveillant de l'opération. En me disant, ça y est, c'est terminé. Et après l'avoir imaginé, j'ai fini par le voir, ce vide. Je l'ai vu lors d'une échographie, en fait. Donc il y a 4 ans plus tard, donc il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai redemandé un peu du coup à quoi ça ressemblait maintenant à l'intérieur, juste pour être sûre, le médecin a senti que j'avais besoin de voir et de comprendre. Et donc il m'a fait une échographie pelvienne et il a allumé le moniteur. Et moi, j'avais jamais eu de moniteur en face de moi. J'avais toujours eu le moniteur en face du médecin en question qui regardait, qui tournait vaguement si nécessaire. Et là, pour moi, c'était une image, c'était l'image qu'on a normalement quand on est enceinte et qu'on voit son bébé pour la première fois, qu'on veut être sûr que le cœur bat, etc., etc., les 10 doigts et tout. Et alors là, je l'ai vu, le vide. Et je me suis effondrée, 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, j'ai constaté le vide. Voilà, on le sait, on l'imagine, et là, je l'ai vu. Bon, bah, voilà.
T'as eu envie de le remplir ?
Je l'ai rempli avec mon spectacle. Je l'ai rempli, et pas que avec mon spectacle, d'ailleurs.
Ton spectacle qui... pour les personnes qui nous écoutent, qui retracent ton parcours, c'est ça, Ex Uteros, j'en parlais dans l'intro.
Ouais, mon spectacle, en fait, à la base, ne devait pas s'appeler Ex Uteros, parce qu'à la base, c'était des sketchs de femmes qui n'ont pas d'enfants à la quarantaine. Et c'était pendant l'écriture de ce spectacle qu'on m'a annoncé que j'avais ce cancer et que du coup, je n'en porterais jamais. Donc c'est mon amie Sophie Brugeil qui m'a écrit les textes. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, c'est quand même un peu hallucinant, non, ce qui se passe. Et donc on a décidé de partir de la base qu'on avait et d'en faire un spectacle qui non seulement sera drôle, mais sera aussi utile. C'était ma volonté à partir du moment où j'ai su que j'avais ce cancer et que je l'ai su un peu trop tard, mais c'était grâce à un frottis en fait. Enfin, que c'est grâce à un frottis peut vous sauver la vie. Il y a beaucoup d'autres choses maintenant qui sont faites pour vous sauver la vie, les tests HPV. Enfin, au niveau gynéco, c'était briser 2 tabous en fait. C'était parler de l'appareil génital féminin, de parler de cancer. Et donc j'ai dit faut qu'on en parle parce qu'on n'en parle pas. Moi je faisais un frottis parce qu'il faut faire un frottis, donc je fais un frottis, et j'ai réalisé à quoi ça servait. Et là j'ai dit je peux pas passer à côté de cette info, mais j'ai pas envie de faire un spectacle sur le cancer, j'ai pas envie d'aller dans le pathos, mais d'une façon ou d'une autre on va en parler. Et c'est là qu'Ex Uteros est né.
Dans ce vide.
Il est né dans ce vide. Mais dans ce vide, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que ce spectacle qui est né, puisque moi, j'ai changé de vie, en fait. Avant d'être comédienne, avant d'avoir mon cancer, je travaillais dans une grosse boîte de conseil américaine, working girl, de la tête aux pieds. J'étais dans ma zone de confort, enfin vraiment j'avais pas de... J'étais comédienne en amateur depuis que j'étais toute petite et j'avais jamais eu le courage de sauter le pas. Et quand vous arrivez à 40 ans, qu'on vous annonce que vous avez un cancer, que de toute façon vous n'aurez pas d'enfant, je mets des guillemets, mais c'est grâce à mon cancer que j'ai pu finalement accoucher de moi-même et puis faire ce bébé qui s'appelle Ex Uteros. Avec une femme.
C'est génial. Donc.
C'est fou.
Il y a un mot, quand on a échangé avant l'interview, qui m'a un peu mis sur le choc, parce que je ne connaissais pas ce mot, nullipare.
Nullipare, ça veut dire qu'il n'a jamais accouché. C'est étymologiquement parlant, par... J'avais regardé, parce que je trouve ce mot horrible.
Horrible.
Horrible. Et donc... Effectivement, c'est un mot que j'ai beaucoup entendu. Vous êtes nullipare. Pour moi, c'était une évidence que j'aurais des enfants. C'est mon job. Je veux des enfants et voilà, j'ai envie de repeupler la planète. Et à partir du moment où on me retire ce job, on peut se dire, ouais, je suis nulle, je ne sers à rien. C'est aussi pour ça que j'ai voulu donner du sens à ce qui m'arrivait. Parce que je ne suis pas nulle.
Non.
Je vais donner du sens, je veux être utile. Donc prévenir toutes les autres femmes que vous m'avez fait son petit check-up, etc. Parce que c'est vraiment... Le cancer du col de l'utérus, c'est le cancer qu'on peut éviter. On peut ne pas l'avoir. Donc vraiment, on fait attention. Ce que je dis à chaque fois, hashtag tutti frotti, hashtag check ta chatte. Non mais c'est la base. Donc voilà, donc je donnais du sens, c'était aussi ça. J'ai donné du sens à ma vie en essayant d'être à ma place de comédienne. Parce que c'est quelque chose qu'on me disait avant, et là maintenant j'y suis.
Et tu finis par l'incarner ce corps alors ?
Je l'incarne.
Est-ce que ta notion de ce qui est être une femme a évolué depuis, a changé ?
L'image de la femme, de toute façon, d'une manière générale, elle évolue. Aujourd'hui, on parle beaucoup des femmes, justement, les femmes de plus de 50 ans, le body positive. Les femmes, elles essayent de plus en plus de s'assumer, de toute façon, en dehors de leur maternité.
Mais pour toi, c'est quoi ?
Et du coup, pour moi, de fait, aujourd'hui, je veux m'accomplir aujourd'hui en tant que femme. Je pense qu'il y a quand même un esprit de sororité dans le fait de m'accomplir en tant que femme. C'est de pouvoir servir aux autres femmes. Pour que celles qui le veulent, justement, elles puissent continuer à faire des enfants. Enfin, vraiment, je suis un peu toujours sur le même... Mais ça reste toujours en rapport avec... finalement, ça reste peut-être toujours en rapport avec la maternité. Et m'accomplir en tant que femme dans mon travail, j'ai beaucoup de choses à prouver parce que j'ai vraiment complètement changé de vie. Mais par rapport à mon...
Mais ta création aujourd'hui, elle se situe à d'autres endroits ? Ton besoin de créer ?
Non, alors en plus, mon besoin de créer, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit ce spectacle, c'est donc mon amie Sophie qui l'a écrit, mais même une fois qu'il a fallu tout changer, donc je l'ai accompagnée, mais... moi, j'ai pas ce besoin de création, j'ai besoin besoin de me sentir utile. La création, c'est pas la plus grande partie de mon job, en tout cas par rapport à ce spectacle.
Il y a une légende urbaine qui dit que jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment comment se fabriquer les enfants, les femmes étaient considérées comme des magiciennes. Je trouve ça assez intéressant. Elle se situe où, ta magie, à toi, aujourd'hui ?
Ah là là, ma magie. C'est d'être... de procurer de l'émotion. Procurer de l'émotion aux gens de la même façon que quand on ne sait pas comment on fait les enfants. L'émotion, on ne sait pas vraiment comment elle arrive. Et on ne sait pas toujours ce que ça va donner quand on essaye de procurer de l'émotion aux autres, que ce soit sur scène ou dans la vie.
Elle te fait quoi, l'émotion là, qui monte à l'intérieur de toi ?
Elle me fait trembler.
Pourquoi c'est si important pour toi, l'émotion ?
Parce que c'est ce qui nous rend vivants. De rire, de pleurer, de crier, d'avoir les relations entre personnes, elles se construisent à travers des émotions. Et de donner des émotions aux gens, je trouve que c'est un beau tour de magie. Parce que même des fois, comme c'est jamais pareil, quand on est sur scène par exemple, des fois les gens rient, des fois les gens ne rient pas du tout. Sur la même phrase, sur la même, d'un soir à l'autre. Et donc chaque émotion, selon les personnes, elle est vécue différemment. C'est une rencontre, une émotion. Donc moi aujourd'hui, ma magie, elle est là. J'aime bien.
Comment tu vis ton corps aujourd'hui ? Avec les autres, avec des hommes ou des femmes,
Alors, on n'est pas encore très, très copain-copain avec mon corps. comme je disais tout à l'heure, cette distance que je peux avoir avec, avec lui. Et c'est souvent dans le regard d'un homme, en fait, que je me réconcilie avec mon corps. Parce qu'un homme qui vous aime, il vous trouve belle, il vous regarde. Et dans la mesure où c'est où il va y avoir une réciproque, enfin, donc dans mon rapport aux autres, en tout cas avec c'est à travers le regard d'un homme, pas des hommes, d'un homme que je peux réussir à me trouver à aimer mon corps
et
ne faire qu'un avec lui.
Et physiquement, dans l'acte amoureux, comment ça se passe pour toi aujourd'hui ?
Ça se passe bien. Donc, physiologiquement parlant, ça se passe bien.
Les sensations sont les mêmes ou ça change ?
Non, c'est pareil. Mais j'ai mis du temps à y revenir, à retrouver une intimité avec un homme, je savais pas du tout à quoi m'attendre, vraiment. Et à l'époque où ça m'est arrivé, j'étais donc célibataire, et pour la rééducation, on m'a dit qu'il fallait que le mieux, en fait, c'était d'avoir des rapports sexuels. Je dis oui, mais enfin là, en l'occurrence, je peux clairement pas avoir des rapports sexuels avec n'importe qui. J'ai une amie d'ailleurs à l'époque qui m'avait dit, de toute façon, t'es condamnée à tomber sur quelqu'un de bien avec ce qui t'est arrivé. Et elle avait raison. Elle avait raison. Du coup, passé la première fois où tu dis, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut que je te dise. Parce que je ne me suis jamais cachée de mon cancer, etc. Par contre, au niveau des délais, je lui ai dit, je n'ai jamais refait l'amour depuis mon cancer. Mais j'avais besoin de le dire parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre.
Mais c'est important, c'est courageux.
Courageux, je ne sais pas, mais honnête. Mais même pour moi, c'est-à-dire, si jamais j'avais mal, si jamais j'avais peur, si je me mettais à pleurer, si l'autre en face n'était pas prévenu, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle a ? Alors que là, j'avais quand même besoin aussi de lui dire. Puis pour me sentir en confiance. De toute façon, en l'occurrence, avec cette personne, je me sentais en confiance. Mais donc de lui dire, c'était... donc tout se passe bien. Parfois on a des petites surprises parce que je vais rentrer dans la phase technique. c'est à dire que ce que je disais tout à l'heure par rapport à tout ce qu'on m'a enlevé, c'est difficile en audio de montrer.
Vas-y, Donc tu montes les mains vers le...
Non, mais je fais ce V. Mais du coup, à la base du V, il y a un tunnel, qui est le vagin, en fait. Et à partir du moment où... C'est pour ça que je disais à l'époque, mais je vais être quoi ? Je vais être une béance, je vais être... Qu'est-ce que c'est ? Mais en fait, on m'a expliqué qu'on m'avait recousu.
Ok. En fait.
Donc, il n'y a plus de V, il n'y a plus tout ce qu'il y a au-dessus. Mais du coup, on a refermé le vagin. Ce qui fait que donc, c'est refermé, c'est recousu. Il y a une cicatrice qui, parfois, peut se mettre à saigner. Parce que du coup, ça tape.
Oui, bien sûr.
Et voilà. Donc, la première fois, parce que ça, par rapport à l'accompagnement médical, moi, je n'étais pas du tout prévenue. Du tout. Et de saigner, hors période de règles, par exemple, ça peut être un des symptômes d'un cancer gynécologique. Donc, quand on en a déjà eu un, quand on a mis du temps à se remettre à la sexualité, etc., et quand d'un seul coup, on se remet à saigner, pour aucune raison...
Oui, parce qu'en plus, tu étais ménopausée à l'époque, c'est ça ? Oui, tu as été ménopausée direct après.
Ça, c'était un grand moment aussi, ouais. Là, le corps... Il vous en fait voir de toutes les couleurs, vraiment, vraiment. Il y a chaud, il y a froid. Mais donc, du coup, voilà, la surprise, les petites surprises, c'est ça. Une fois qu'on sait, bon, bah, voilà, c'est comme ça. On saigne de temps en temps. C'est pas systématique, heureusement. Mais sinon, pour le reste, tout se passe bien.
Tout se passe bien.
Tout se passe très bien. J'ai même demandé, du coup, je dis, mais du coup, tu sens des trucs?
Ouais.
Ça change? Je dis, bah, non. Non. Donc, voilà, donc, le corps a fait son job, quoi. Il a tout remis un peu en place. Et puis, ça passe comme une lettre à la poste. Tout se passe bien.
Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à toutes les femmes et tous les hommes qui nous écoutent ?
De se dire que tout ce qui concerne l'intimité et ce qu'on a entre les jambes, il ne faut pas en faire un tabou. Voilà, il faut en parler hyper librement. Pour les femmes, on parle quand même de l'origine du monde. C'est un truc magnifique, c'est un cadeau. Enfin, c'est de là qu'on vient, quoi, en gros. Donc, donc il ne faut pas hésiter à en parler, à rigoler dessus, à en parler sérieusement quand il s'agit d'en parler sérieusement. Et je parle pour que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Il faut prendre soin de soi, mais de haut en bas, checker l'intérieur. Et à partir de là, voilà, pas hésiter à en parler. Enfin, moi, c'est quand, la première fois qu'on m'a dit, mais quel courage de parler de ça. Alors, à aucun moment, pour moi, ça a été une preuve de courage. Pour moi, c'était juste une évidence. Et quand j'ai réalisé que c'était pas le cas pour tout le monde, aujourd'hui, voilà, le message que j'ai envie de dire, c'est parlez-en, quoi. Enfin, c'est cadeau.
Merci Sabrina.
Merci Violaine.
Shapes est une émission produite par les Ondes Mécaniques en partenariat avec L'Oréal Paris et l'association Stand Up. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Facebook et Instagram à Shapes Podcast et je vous invite à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour nous aider à grandir et à diffuser des bonnes ondes. Shapes aime les cœurs et les partages, alors c'est à vous.
Les ondes mécaniques.